à tous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est des professeurs sceptiques sur The Pub. Celui qui a eu l'idée de commencer ces réunions dédiées à l'esprit critique, notamment pour tout ce qui est paranormal, médecine alternative, ovni, etc., c'est Jean-Michel, qui prendra la parole aujourd'hui. Alors il m'avait demandé de l'aider à faire ça, parce qu'on se connaît depuis longtemps, en fait. En 2001, il a fait son mémoire en psychologie de la religion, sur le modèle sociopsychologique en ufologie, donc comment expliquer la contagion des observations, notamment pendant la vague belge de 1989. Et puis il a fait un diplôme d'études approfondies, c'est toujours en psychologie ça ?
Oui.
Sur la croyance au paranormal, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène des gens intelligents souvent à avoir des idées farfelues. Voilà. Où il a mis notamment en avant un lien entre la croyance au paranormal et certains types de personnalités. Et après ça, donc ça c'était en 2004, après ça il est parti, 4 ans
Presque 5, ouais.
Presque 5 ans au Japon, il est revenu juste avant la catastrophe nucléaire de Fukushima, donc c'est pas difficile à revenir, c'était quand 2011 ou quelque chose comme ça.
C'était en 2011, ouais.
Et d'où son intérêt pour la culture japonaise. Et grosso modo, il organise, en plus des conférences, un podcast où toutes les semaines, il y a un nouveau sujet, c'est soit une interview, soit un petit exposé sur un thème sceptique. Voilà.
Super.
La présentation.
Merci. Merci Dorian. Oui, donc aujourd'hui, on va parler des yokai et yurei, donc un sujet un peu différent. Comme Dorian vient de le dire, généralement, je parle souvent d'ufologie ou de parapsychologie, mais on s'est dit on va faire quelque chose de tout à fait différent. Et donc les yokai et les yurei, c'est donc des monstres, parce que dans la conférence s'appelle « À la rencontre des monstres japonais ». Les yokai, c'est des monstres, et les yurei, c'est des fantômes. Et je vais vous en présenter quelques-uns au fur et à mesure de cette présentation. Cet été, j'étais au Japon, et donc voilà, nous avons déjà un yokai, donc un monstre japonais. Bon, c'est une... Il a l'air tout mignon là. Au bord d'une rivière, il y avait une rivière et donc une cascade, et donc c'est un panneau qui indique que ce lieu-là est un lieu d'habitation d'un yokai qui s'appelle un kappa. Alors les kappa, on va en reparler par la suite, hein, parce que c'est un des yokai que j'aime bien. Mais c'est un yokai qui est un peu un chouïa dangereux, donc dans la version classique, il vous attaque le long des rivières et il vous noie. Mais maintenant, c'est devenu une gentille créature, une mascotte pour les enfants. Même il y a des dessins animés où on les voit, où les enfants ont comme mascotte des kappas. C'est un peu le processus qu'on a dans les folklores, comme le monstre du Loch Ness. Maintenant, si vous allez en Écosse, il y aura des jolies peluches de Nessie qu'on vend aux touristes. Hein, donc, c'est un peu le même phénomène. Et donc, vous voyez qu'en vous promenant au Japon, ben voilà, vous tombez sur une rivière où on vous avertit qu'il y a des kappas qui habitent là. Voilà, donc Dorian l'a un peu expliqué, hein, pour me présenter. C'est vrai que je me suis toujours intéressé aux phénomènes dits fortéens ou étranges ou bizarres dans une optique sceptique. Et donc, avant de partir au Japon, j'étais justement allé, j'avais fait une observation du monstre du Loch Ness, comme vous pouvez voir. J'ai pris une photo qui n'est même pas si floue que ça, en plus. J'étais donc allé au monstre du Loch Ness, je veux dire. Et ça va être notre troisième point, évidemment, le monstre du Loch Ness, ça relève de la cryptozoologie. Hop. Et donc, le plan de cette présentation, d'abord, je vais parler un peu de la mythologie et des religions au Japon et le lien que ça a avec, évidemment, les créatures dont on va parler. Ensuite, on va parler du folklore et puis de la cryptozoologie. Bon, évidemment, religion, je pense que c'est clair pour tout le monde, mythologie, c'est clair. Le folklore, évidemment, c'est toutes sortes de comportements qu'on peut avoir qui permettent de... dans une culture où on transmet quelque chose à la génération suivante. Hein. Ça peut être, par exemple, touchons du bois... c'est un comportement comme ça, une chanson comme « Joyeux anniversaire » ou encore, évidemment, des contes de fées comme « Le petit chaperon rouge hein. ». Et donc, souvent, les yokai et les yurei, à l'heure actuelle, c'est l'objet des contes de fées des enfants, Je ne peux pas dire que les Japonais, ça va être la question, hein, dans quelle mesure est-ce que les Japonais croient encore littéralement à l'existence de ces monstres. C'est une question qui n'est pas toujours facile à répondre. On pourra réfléchir sur la question, mais les yokai existent en tout cas en tant que folklore, donc qui est transmis dans la culture, dans des livres pour enfants, des chansons, des dessins animés, des animés, etc. Et la cryptozoologie, bah là, c'est parascience, pseudoscience, qui est supposée étudier les créatures mystérieuses. Le problème de la cryptozoologie, c'est qu'elle prétend prouver l'existence, ou elle tend à chercher à prouver l'existence de créatures légendaires. Alors évidemment, si on prend une position un peu de défense de la cryptozoologie, on va dire, on a découvert le sélacanthe, ça prouve que la cryptologie c'est une science, quoi. Ben non, parce que les biologistes et les naturalistes, ils n'ont pas attendu l'invention de la cryptozoologie dans les années 1950 pour découvrir des espèces nouvelles. Donc si on définit la cryptozoologie comme la découverte d'espèces nouvelles, la recherche d'espèces qu'il restera à découvrir, ils font le même boulot que les biologistes et les zoologues et les naturalistes. Donc, alors la cryptozoologie, ça tend à prouver l'existence de créatures dites légendaires ou qu'on connaît à travers le folklore ou juste à travers des observations. Par exemple, le monstre du Loch Ness, c'est des gens qui rapportent l'avoir vu. Mais évidemment, c'est assez problématique. Les créatures de la cryptozoologie, c'est le Bigfoot, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra, le Yeti, etc. Hein. Et généralement, réellement, la cryptozoologie n'a jamais réussi à rien prouver du tout de ce côté-là. Mais évidemment, vous allez avoir des cryptozoologues au Japon, et évidemment, ils vont prétendre essayer de prouver l'existence de certains des yokai. Donc, que certains yokai qui existent dans le folklore, ou dans les observations, puisqu'ils sont observés, évidemment. Enfin, évidemment. On a des rapports d'observation de kappa, on a des rapports d'observation de toutes sortes de créatures. Ils disent, c'est parce qu'en fait, il y a un animal réel qui se cache derrière et qui reste à découvrir. Ça sera donc notre troisième point. Donc, on va commencer par les religions au Japon et la mythologie. Bon, rapidement, les religions au Japon, il y a, juste pour éclaircir le débat, il y a le christianisme qui est vraiment extrêmement minoritaire pour des raisons historiques. On sait qu'ils sont environ 3% de chrétiens au Japon, moi je dis toujours. Il y a 3% de protestants en Belgique, il y a encore moins de juifs pratiquants. Donc ça vous donne une idée, il y a autant de protestants en Belgique qu'il y a de chrétiens en ensemble au Japon. Donc il y a très très peu de chrétiens au Japon. Et alors on dit en général que les Japonais sont shinto-bouddhistes, ce qui veut dire qu'ils pratiqueraient les deux religions. On dit en général, vous allez dire des choses comme les Japonais se marient shinto et se font enterrer bouddhistes. Bon, évidemment, c'est un peu la version simpliste des choses. Les choses, ça cache une diversité beaucoup plus large que ça, évidemment. Ça permet un peu de cibler la religiosité au Japon. Même le concept de religion est problématique pour décrire la religiosité japonaise. Je vous ai mis, les Japonais utilisent le terme shukyo, ça veut dire une religion, parce qu'ils l'ont repris de l'Occident, évidemment. Mais évidemment, le concept même de religion a été forgé à partir des religions monothéistes occidentales. Et donc elle s'applique souvent très mal à ce que pratiquent les Japonais eux-mêmes. Si on pense au confucianisme, le confucianisme c'est plutôt une philosophie sur comment gérer les relations dans les familles, avec l'État, etc. C'est pas vraiment une religion. Si on dit pour que ce soit une religion, il faut qu'il y ait une croyance dans des dieux, si vous prenez le confucianisme, c'est déjà loupé, quoi. Alors la religion qui va nous intéresser particulièrement, c'est évidemment, quand on parle des yokai et des yurei, c'est le shintoïsme, donc la voie des dieux. Donc souvent vous allez entendre le mot kami, hein. Donc ça c'est le kanji pour les kami, et ça c'est le kanji pour la voie ou le chemin. Les kami sont donc les dieux du shintoïsme. Évidemment, on dit souvent que le concept de Dieu n'est pas tout à fait adapté à décrire les kami, donc il vaut mieux utiliser le terme de kami, plutôt que d'essayer de le traduire par Dieu. Donc le shintoïsme, c'est la voie des kami. Vous avez ici un magnifique tori, hein. C'est ce qui se trouve à l'entrée des temples shinto. Celui-là, c'est probablement le plus célèbre du Japon, puisque c'est celui de Miyajima, sur une île à l'extérieur d'Hiroshima. On y va en bateau depuis Hiroshima. Et il est célèbre parce qu'évidemment, il est dans l'eau, ce qui est tout à fait spécifique. C'est-à-dire que l'île entière est sacrée. Et donc, comme l'île entière est sacrée, quand ils ont construit un temple sur l'île, ils ont mis le tori dans l'eau, comme ça, ça englobe toute l'île. Le territoire sacré commence après le tori. Puisque évidemment, c'est une sorte de portique qui indique qu'on rentre dans le territoire du sanctuaire Shinto. Donc le shintoïsme, un des aspects difficiles pour nous à envisager, c'est que c'est une religion, on va souvent dire que c'est un animisme, mais en fait c'est une religion qui recouvre tout le spectre en fait. C'est-à-dire que si on s'intéresse vraiment à la philosophie qui est derrière le shinto, on verra qu'il y a une sorte d'énergie vitale à l'origine de tout, donc ça c'est une sorte de dieu monothéiste comme on a chez nous. Et puis ensuite on a une sorte de panthéon avec des dieux de type vraiment un panthéon qui ressemble au panthéon gréco-romain. Hein. Et puis ainsi, à la couche suivante, on a l'animisme, avec justement le fait que certains lieux, certaines zones, certaines créatures naturelles vont être sacrées. Ce qui est souvent, pour nous, difficile à imaginer comment est-ce qu'on... La vision du monde animiste n'est pas évidente pour nous, parce qu'on n'est pas animiste, forcément. Moi j'ai tendance à expliquer ça en disant l'animisme ce n'est pas de croire que toutes les pierres ont une âme, c'est de croire qu'au moins certaines d'entre elles ont une âme. Et donc les shintoïstes, la religion shinto va vraiment, il y aura des lieux bien spécifiques. Bon évidemment il y a le mont Fuji qui est par exemple un dieu, il y aura des rivières ou un arbre qui seront sacrés et considérés comme ayant une âme si vous voulez dans cette forme d'animisme. Et puis au-delà de tout ça, il va encore avoir une forme de culte des ancêtres qui est surtout repris par les bouddhistes au Japon. Le bouddhisme au Japon, c'est principalement du culte des ancêtres. Mais dans la culture japonaise, vous allez avoir... tous les Japonais vont pratiquer, par exemple, en été, Obon, hein, c'est un festival où les âmes des esprits des défunts sont supposées revenir dans la maison. Et donc on va nettoyer, enfin c'est un peu comme la Toussaint chez nous, hein, ils vont nettoyer les tombes, etc. Mais donc quelle que soit l'orientation religieuse des Japonais, ça c'est, voilà quoi, c'est la complexité religieuse des Japonais, hein, de quelle religion ils pratiquent aussi, c'est pas toujours évident à dire. Mais donc chez nous la Toussaint est un peu en voie de disparition, mais chez eux la Toussaint est encore, Obon est encore extrêmement pratiquée. D'ailleurs vous allez souvent voir des choses comme... le shintoïsme, ce n'est pas une religion. Le shintoïsme, c'est être japonais. C'est des choses tellement liées. Donc souvent, quand je parle avec des amis japonais, parce que j'essaie de leur poser des questions pour un peu sentir, essayer de comprendre leur religiosité, ils vont me dire « Oh non, mais non, mais je ne crois en rien. » Moi, donc on se dit « Oui, c'est des athées, ils ne croient en rien. » Mais je dis « Oui, mais au jour du Nouvel An, tu vas aller au temple, au temple chinois, au bouddhiste, pour célébrer le Nouvel An. » Il fait « Oui, c'est normal, quoi. Tous les Japonais vont au temple. » Ça fait partie du fait qu'ils sont japonais, qu'ils vont au temple pour faire ça. Donc, on a un peu cette idée... qu'être shinto-bouddhiste, c'est la même chose qu'être japonais, finalement. Et si on n'est pas shinto-bouddhiste, on n'est pas réellement japonais. Il y a un problème qui est lié à ça, c'est que... évidemment, ça fait partie des dérives qui ont généré vers la Seconde Guerre mondiale, puisqu'évidemment, le shintoïsme a été religion d'État avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc ce n'est pas sans conséquence. Et évidemment, le gouvernement, avant la Seconde Guerre mondiale, avait tendance à dire, ben oui, nous en fait on est un état séculier, hein, simplement être shintoïste et japonais, donc on pratique les rites shinto parce que ça fait partie de notre japonaïté, mais en fait on est un état tout à fait séculier, ce qui est assez... Vous repenserez à ça quand vous voyez, comme récemment Abe, le président, le premier ministre Abe, il est allé au temple, hein, le fameux temple où sont enterrés les... des soldats de la Seconde Guerre mondiale, et ça crée toujours des conflits avec la Corée et la Chine. Pourquoi est-ce qu'un premier ministre va dans un temple Shinto? Pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin d'aller dans un temple Shinto? C'est comme si un premier ministre français allait dans une église catholique, hein. C'est ça qu'il fait. Hein. Et non seulement ça, mais en plus Abe, en fait Abe est un fondamentaliste Shinto, hein. Et donc il voudrait que ça soit obligatoire que les premiers ministres aillent chaque année dans ce temple shintoïste. Voilà, c'est juste une petite introduction au shintoïsme, c'est un sujet très très vaste. Mais la dernière chose que je voulais dire à ce sujet, c'était qu'évidemment il y a deux livres qui ont été écrits au 8e siècle, hein, 712 et 720, ce sont les bibles du shintoïsme. Donc, pour rappel au niveau historique, avant le 6e siècle, le Japon n'a pas d'écriture, hein, et puis après au 6e siècle, ils reçoivent l'écriture des Chinois, donc ils adoptent les idéogrammes chinois. Et donc on commence à avoir des écrits japonais, et il y a déjà un empereur à ce moment-là, et la première chose qu'il demande, c'est qu'on écrive des livres d'histoire qui racontent l'histoire du Japon. Et donc on a ces deux livres, donc le Kojiki, ou Chronique des faits anciens, et le Nihon Shoki, Chronique du Japon, qui ont été écrits très près l'un de l'autre. Et en fait, si vous voulez, c'est la Bible, le Coran du shintoïsme, puisque c'est dans ces livres que vous allez avoir les récits mythologiques qui amènent à la création du Japon, hein. D'abord, les dieux donc, vont lancer donc, du lait dans la mer et puis ils vont barater pour faire du fromage, pour créer les îles du Japon. Et puis après ça, vous avez l'étape avec le panthéon, donc la déesse Amaterasu, la déesse du soleil, et tous les autres dieux. Et Amaterasu, évidemment, va être présentée dans ses livres comme étant l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de l'empereur. Et donc ces livres établissent que l'empereur est un demi-dieu vivant et qu'il est d'origine divine. Et évidemment, il n'y a pas eu de brisure du linéage entre le 8e siècle et aujourd'hui. Donc l'empereur actuel est supposé toujours être le descendant de la déesse Amaterasu, évidemment. Voilà, donc ces ouvrages sont des livres d'histoire, mais évidemment commencent dans la mythologie, et puis plus on se rapproche du temps de leur rédaction, plus ils deviennent historiquement exacts. Et de moins en moins mythologique, évidemment. Voilà. C'est ça, hein. Si vous êtes un empereur et que vous commandez un livre qui est supposé parler de lui, demandez qu'on inclue dedans que vous êtes un demi-dieu, ça le fait. Voilà, donc, juste une des histoires dont je vais vous parler ce soir. Évidemment, parce que dans ces deux livres, il va avoir les premiers monstres. Il va avoir des mentions de yokai et de yurei, donc les fameux monstres et fantômes. Évidemment, attention, ces histoires de monstres ont largement évolué au cours du temps, donc les représentations qu'on a maintenant des yokai et des yurei sont très différentes. Elles datent généralement de l'ère Edo, donc vers le 18e siècle. Et par exemple, l'image qu'on a du yurei, du fantôme japonais, a commencé à apparaître à l'ère Edo, donc 17-18e. Et aussi, il y a des yokai qui sont créés en permanence. Donc, à la fin de la conférence, je vous présenterai un yokai qui est apparu dans les années, enfin, dans le courant du XXe siècle, un tout nouveau yokai, tout frais. Donc, c'est un processus permanent d'invention, de créature. Alors, Yamata no Orochi, c'est donc un serpent qui avait 7 têtes et 7 queues. C'est toujours là. Cette tête, ça va, mais cette queue, j'ai toujours du mal à me représenter. Quoi. Mais bon, il avait 7 têtes et 7 queues. Et donc, un des dieux du panthéon des Shinto, qui s'appelle Susanoo, l'affronta, hein, dans un combat titanesque. Alors, au niveau de ce brave Susanoo, c'est le dieu des orages, de la foudre, etc. Donc, c'est la brute épaisse du panthéon. Et c'était le frère ou le demi-frère de la déesse Amaterasu. Donc Amaterasu, c'est la déesse du soleil, hein. C'est la fameuse déesse qui a donné le soleil levant, enfin c'est pour ça qu'on a sur le drapeau japonais l'emblème du soleil, hein, et qui est l'aïeul de l'empereur. Mais donc Susanoo lui avait joué des mauvais tours, parce que bon, c'était une canaille, hein. Et donc à cause de ça, il avait été banni sur terre, donc il a été banni au Japon. Et donc, dans la mythologie, il se promène dans les îles japonaises, et alors il entend parler de ce fameux Orochi, hein, qui en fait a comme habitude de manger des jeunes filles sur période régulière. Et évidemment, Susano décide d'aller lui régler son compte. Et la façon dont il procède, c'est qu'il fait, je résume et je simplifie un peu, mais il utilise des barils de saké, donc 7 barils de saké qu'il met devant le Orochi. L'Orochi, avec ses 7 têtes, boit le saké. Et après, quand l'Orochi est suffisamment saoul, Susano lui règle son compte. Donc là, c'est un peu le... Donc c'est un des mythes tel qu'il est raconté dans le Nihon Shoki et le Kojiki, les deux livres du shintoïsme. Donc évidemment, c'est des histoires qu'on retrouve dans différentes mythologies, hein, dans la mythologie nordique avec Thor, dans la mythologie grecque avec Zeus, et dans la mythologie chrétienne avec Saint-Georges contre le dragon. Et on considère en général que ça représente évidemment la victoire de l'ordre sur le chaos. Bon, alors, vous avez... moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout comment c'est vécu à l'heure actuelle hein, par les Japonais. Parce que bon, que ça soit... Oui, les Japonais ne lisent pas hein, les deux livres dont j'ai parlé. C'est pas comme les... Chez nous, on a l'habitude de lire la Bible. Enfin, je veux dire, les chrétiens ont l'habitude. Et bah, bon, à cause du fait que bon, les protestants disent qu'il faut lire la Bible. Mais les Japonais ne lisent pas ces livres-là, à part les spécialistes de la mythologie shintoïste. Et je suppose les prêtres shinto doivent le lire. Comment est-ce que c'est vécu à l'heure actuelle? Il y a 4-5 ans, donc j'étais au Japon, et alors j'ai observé donc, une kagura, donc c'est une danse rituelle shinto. Et là, vous pouvez voir une des têtes de l'Orochi. Donc en fait, le kagura, c'est une danse rituelle shintoïste. Et donc, ils ont des grands tambours, hein, les fameux taiko, vous savez, ça fait bon, 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 avec des gars bien musclés qui tapent dessus. Ils font c'est vraiment assourdissant comme musique. Et sur scène, pendant ce temps-là, ils font donc une danse rituelle, sans parole. De toute façon, comme il y a les taiko juste à côté de la scène, si l'acteur parlait, on n'entendrait rien de toute manière. Et c'est purement dansé, et ils recréent des scènes, donc des livres dont j'ai parlé. Et donc, dans les scènes les plus célèbres, il y a celle d'Ebisu, qui est le dieu de la pêche. Et alors, il y a le fameux combat entre Susano et l'Orochi est recréé. Et donc, ça veut dire qu'il y a un danseur dans chacune des têtes. Hein, donc, ça fait 7 danseurs pour l'Orochi, plus un danseur pour Susano. Et ça dure dans les 1 heure de combat, hein, de danse. C'est une prestation, il faut le voir. Et c'est vrai qu'avec la musique, c'est assez... c'est très prenant à observer, mais c'est vrai que... Voilà. Voilà, donc, si vous êtes intéressé par la mythologie, évidemment, il y a le dessin animé des studios Ghibli qui s'appelle Mononoke Hime. J'en présenterai un autre après qui parle plutôt des yokai, mais ici, c'est vrai qu'il parle de yokai, mais dans l'optique vraiment mythologique. Donc, on a des loups géants, des sangliers géants. Ça, c'est vraiment l'approche de la mythologie shinto. Hein. Il représente les esprits de la nature tels que l'animisme shintoïste les conçoit. Et donc, c'est Mononoke Hime, ça veut dire princesse Mononoke, mais Mononoke, c'est monstre, donc c'est la princesse des monstres ou la princesse démoniaque. Un aspect très intéressant, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous aimez le Japon aussi, hein, si vous l'avez vu, un des aspects très intéressants, c'est que c'est vrai qu'elle est l'amie des monstres, de ces kami, de ces divinités de la forêt. Mais elle est elle-même altérée par... elle est elle-même devenue un yokai, elle est elle-même devenue un monstre par leur contact. Dans les dialogues, c'est assez évident. Elle n'est plus humaine, quoi. Elle les a tellement fréquentées que son essence même a été altérée. Et elle devient donc la Mononoke Hime. Elle est elle-même un des monstres de la forêt. Voilà. C'est ma page sur les yurei, je ne vais pas en dire grand-chose. Parce qu'il fallait bien faire une sélection. De toute façon, les yurei, si vous êtes fan de films d'horreur, vous connaissez évidemment la représentation comme dans Ringu, hein, de The Ring. Là. Il y a aussi The Grudge et Dark Water, qui sont tous des films qui sont devenus populaires récemment. Donc le yurei, c'est toujours une femme avec des longs cheveux noirs qui cachent le visage et qui flotte Bon, évidemment, elle est tout à fait surnaturelle. Et donc, c'est l'apparence vraiment qu'ont les fantômes japonais. Et donc, ça, c'est évidemment dans The Ring, hein, l'anneau, hein, un film récent. Je crois que j'ai pris la photo de la version américaine. Enfin, puisqu'il y a eu un remake américain, une version japonaise. Et ici, vous avez une illustration du 18e siècle qui montre comment les peintres commençaient à représenter les yurei à l'époque. Et vous avez évidemment les caractéristiques, les cheveux mal coiffés, ils ne sont pas devant le visage, mais enfin ça va venir. Le kimono, et puis les jambes ne sont pas représentées parce qu'elles flottent. Hein. Et donc il y a aussi toutes sortes de yurei qui sont de fantômes. Tous ces cas de yurei sont en fait chaque fois des personnes spécifiques qui sont mortes, enfin des histoires spécifiques, telle personne a vécu ça, elle s'est fait tuer, elle est devenue un fantôme. Voilà, différents motifs, hein. Mais pour ceux qui ont vu aussi le film dans The Ring, c'est vrai qu'un des motifs traditionnels dans les yurei japonais, c'est que c'est le puits, que le puits est un passage vers l'autre monde, et donc le fantôme émerge du puits, ou on entend une voix dans le puits, voilà. Mais donc je vais surtout vous parler des yokai ce soir, parce que je les trouve plus amusants.
Je peux poser une question sur les yurei, qui passait. C'est des personnages mythologiques à la base, ou c'est les fantômes que les gens voient?
Les yokai, non, c'est...
Les yurei.
Les yurei, oui, non. Mais en fait la réponse, c'est toujours un peu les deux. Hein. Parce que, évidemment, il y a des créations littéraires autour de ces yurei, des légendes qui sont passées autour de ces yurei, mais les gens rapportent les observer aussi. Oui, donc on rapporte des attaques de ces yurei, de ces fantômes, tout comme on rapporte des attaques des yokai. Hein. Donc encore aujourd'hui, il y a des observations de yokai. On va parler du kappa, par exemple. Ça, je sais que dans les années 70, il y a eu des enfants qui ont prétendu... Normalement, les kappas se trouvent dans des rivières, mais version modernisée de l'attaque du yokai, c'était quand les enfants allaient aux toilettes qui rapportaient que le yokai sortait de la toilette pour les attaquer. Donc toutes ces créatures sont toujours tellement vivaces dans l'imaginaire collectif que les gens les observent encore aujourd'hui, quoi. Oui, donc voilà, les yokai, c'est évidemment des êtres vivants, formes d'existence ou phénomènes auxquels on peut appliquer les qualificatifs extraordinaires, mystérieux, bizarres, étranges et sinistres. Voilà, c'est une définition un peu précise, mais j'ai envie de dire tout ce qui n'est pas un yurei est un yokai. C'est très très vaste, le monde des yokai. Chez nous, on a les créatures féeriques, évidemment. Donc on pourrait dire que c'est les créatures féeriques à la version japonaise. Voilà. D'ailleurs, pour un peu rebondir sur la question de Dorian, je pense qu'il faut aussi se rappeler que pour nous, on se dit « Ah oui, les fées, mais personne ne croit aux fées. » Mais en fait, évidemment, si vous prenez le courant de la théosophie au début du XXe siècle, l'existence des fées, pour les théosophes, est quelque chose de clair, hein, d'évident. Hein, ils défendent l'existence des fées. Il y a l'affaire des fées du Cottingley, une petite fille qui prend des photos de fées dans son... Enfin, deux petites filles qui prennent des photos de fées dans leur jardin dans les années 20 en Angleterre. Arthur Conan Doyle, l'écrivain qui a écrit Sherlock Holmes, enquête sur le cas et conclut que les photos sont authentiques, que ce sont des vraies photos de fées. Mais il était théosophe, hein, ça ne biaisait pas du tout son opinion. Mais donc, pour se remettre un peu dans l'idée, je veux dire, c'est pas parce que... Enfin, en Occident aussi, hein, on a tendance à rapporter des observations de fées... C'est peut-être moins populaire que les observations d'extraterrestres à l'heure actuelle, mais il y a encore un siècle, donc dans les années 1920, voilà, on avait même des photos pour prouver l'existence des fées. Donc, voilà, juste pour dire, les Japonais rapportent des observations de yokai, mais on fait la même chose en Europe, hein, donc soyons pas prompts à les juger. Voilà, les yokai préférés de tout le monde. Oui, en fait, ce que j'ai mis, c'est justement parce que j'essaie d'expliquer ce point de l'animisme et de comment est-ce que les Japonais, en tout cas dans le shintoïsme, voient le monde. Hein. Et donc les Japonais, à cause de leur, en tout cas dans le shintoïsme, à cause de leur animisme, ont l'impression que la nature est animée, hein, et vivante, dans le sens qu'elle a vraiment une âme, particulièrement les insectes. Et donc il y a une passion... débridée pour les insectes au Japon. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que les insectes japonais sont beaucoup, enfin pas beaucoup, sont plus grands que les insectes belges, parce que ce qui permet aux insectes d'être gros, c'est l'humidité, et le Japon est beaucoup plus humide. Donc les insectes japonais sont de bonne taille en général. Et donc un des sports nationaux là-bas pour les enfants, les garçons particulièrement vers 10-12 ans, c'est de collectionner les insectes. Non, j'ai pas mis de photo d'insectes, rassurez-vous pour les gens qui ont fait des insectes. Voilà, donc ils collectionnent les insectes. Ça, c'est les boîtes hein, pour les mettre dedans quand vous promenez, vous allez chercher des cigales. Hein, et alors les fameux kabutomushi, c'est les... Là, on a un dessin, mais donc c'est des scarabées avec des énormes pinces. Ils sont d'une taille aussi... Enfin, personnellement, j'en voudrais pas dans chez moi. Mais apparemment, les garçons japonais trouvent ça absolument un excellent animal familier. Hein. Et je crois que cette différence culturelle, enfin, je crois pas, non, je sais que cette différence culturelle entre le fait que les japonais, les garçons japonais adorent collectionner les insectes vient justement de cette idée animiste du shintoïsme que les insectes, on y a, sont vraiment... voilà. Et donc, quand on pense au fait que cette pratique de la collection d'insectes est tellement populaire chez les Japonais, ce phénomène-là n'est vraiment plus très étonnant. Et en fait, l'aspect le plus étonnant, finalement, c'est que Pokémon est vraiment profondément ancré dans l'animisme japonais, dans le shintoïsme, dans l'animisme japonais, mais ils ont réussi à l'exporter dans des pays où qui ne sont plus du tout animistes, quoi, qui ne sont pas du tout animistes. Non, pour donner un exemple, par exemple, il y a une gare à Tokyo, je ne sais plus laquelle, où j'avais lu la nouvelle, ils avaient installé des boîtes avec des grillons à l'intérieur pour que les passagers du train puissent apprécier le chant des grillons quand ils allaient prendre le train. Ben, je ne pense pas que ça nous viendra à l'école, que ça viendra à l'idée à la ville de Bruxelles d'installer quelques boîtes de grillons. Enfin, ouais. Et alors, il y a évidemment Kotaka Shnemur, je l'ai aussi mis un peu pour ça, il faut les attraper tous, ben, c'est pour vous dire encore une fois, on ne va pas les attraper tous. Hein. Les yokai et les yurei, il y en a tellement et tellement, il y en a des centaines. Et donc, j'ai fait une petite sélection, évidemment. Oui, toujours sur le sujet des yokai, il y a une série TV, donc un animé, puis un film, des films qui sont sortis, qui s'appelle Kitaro le Repoussant, Gegege no Kitaro. Et donc Gegege no Kitaro, c'était un manga qui date des années 50, juste de l'après-guerre. D'ailleurs, le mangaka, le dessinateur qui l'a créé, avait fait la guerre et avait été blessé durant celle-ci. Et donc, pendant la guerre, les yokai étaient largement passés de mode parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter, évidemment. On savait bien que pendant la guerre, le Japon a été vraiment détruit. Donc, après la guerre, les gens ne s'intéressaient plus aux yokai, mais donc cette série-là a vraiment ranimé l'intérêt pour les yokai. Ça a été un énorme succès, évidemment. Et encore aujourd'hui, par exemple, le film-là, il date, enfin, je l'ai vu il y a 2-3 ans au Japon, donc c'est tout récent. Et donc c'est une série qui se base évidemment sur les monstres japonais. Donc le personnage principal c'est Kitaro, hein, tout le Gegege no Kitaro. Gegege c'est le bruit des dents qui claquent, je pense. C'est une onomatopée. Mais donc Kitaro c'est un yokai, il est lui-même un yokai. Il a d'ailleurs les fameuses guettas, les sandales japonaises, qu'il peut les lancer, elles lui reviennent toujours. C'est un peu comme le marteau de Thor dans l'univers Marvel, mais lui il a des guettas qui font ça, c'est super. Mais... il a l'apparence d'un enfant. Dans les films, évidemment, c'est un jeune adulte qui le joue, mais je crois qu'il, dans un des films, il dit avoir 350 ans. Et il est né dans un cimetière, et donc il lui manque un œil. Mais l'œil est toujours, bon, pas toujours, évidemment, à certains moments de l'intrigue, il révèle parfois l'intérieur. Mais donc, vous voyez, il dissimule l'œil derrière la mèche de cheveux. Et tous les autres personnages sont aussi des yokai. Et alors, un des autres personnages principaux est le grand-père de Kitaro, qui était un yurei, donc un fantôme, mais il lui est arrivé une embrouille, et il a perdu son corps, et donc le grand-père de Kitaro n'est plus qu'un gros globe oculaire avec des bras et des pieds. Et alors, évidemment, l'action principale, c'est simplement qu'il y a des tas d'embrouilles avec les yokai qui peuplent le monde et les êtres humains, des conflits qui apparaissent. Et Kitaro essaye chaque fois de calmer les yokai et leur dire « Mais non, vous devez cohabiter avec les êtres humains, ça sert à rien d'essayer de mener la guerre aux êtres humains, soyez sages. » Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la série qui a relancé les yokai dans la culture japonaise après la Seconde Guerre mondiale. Donc le fameux kappa. Bon, le kappa, c'est un humanoïde. Vous avez les représentations ici que j'ai trouvées au Japon. Mais bon, c'est un humanoïde. La taille va varier en fonction des représentations. Qui a un corps de grenouille. Et alors, sur la tête, il a une sorte d'assiette comme ça qui est remplie d'eau. Et il adore manger le concombre. Mais c'est des détails super spécifiques, hein, c'est ce que vous lirez sur les yokai, sur les kappa partout. Et donc, on raconte par exemple, bon, il va vous attaquer, là, la version, vous voyez que la version est moins sympathique que celle que j'ai montrée au tout début de la conférence. Là, on voit déjà que les kappa, c'est peut-être pas si cool que ça. Et donc, normalement, ils attaquaient en fait les personnes qui se rapprochaient des rivières pour aller nager, etc. Il y a des illustrations du 18e siècle où il y a quelqu'un qui va déféquer dans la rivière et le yokai il attaque à ce moment-là. Il a passé un sale quart d'heure probablement. Bon, c'est parce que selon certaines interprétations, le yokai voudrait manger les organes internes de la personne qui l'attaque et que la meilleure manière de l'extraire serait par l'arrière-train en fait. Ça doit faire mal. Mais. On préférait qu'il attaque par ici qu'il ouvre. Mais donc, oui, donc là, il noie les jeunes femmes qui vont nager dans les rivières ou les lacs. Et alors, une des anecdotes qu'on raconte pour essayer de l'amadouer, c'est que si vous vous présentez, enfin, s'il se présente devant vous, si vous faites le salut japonais, évidemment, comme il a l'eau sur son assiette là, l'eau va se déverser et il va perdre toute sa force et il ne pourra plus vous attaquer après. Donc. Pour le battre, il faut en fait le saluer humblement et il vous laissera tranquille. Oui, généralement, pour ces yokai, il y a souvent des stratégies à adopter si on veut survivre à la rencontre avec le yokai. Oui, évidemment, on peut voir une utilité au folklore du kappa, c'est que si vous dites aux enfants, si tu vas nager dans la rivière, le méchant homme grenouille va te noyer dans les eaux de la rivière ou du lac, bah, ça encourage les enfants à ne pas aller jouer par eux-mêmes le long du lac. Hein. Donc effectivement, il y a une utilité évidente à ce yokai-là. Il y a un autre yokai que j'aime beaucoup, qui est le lécheur de salle de bain. Et en fait, si vous ne nettoyez pas assez souvent votre salle de bain, le yokai vient, il a une très longue langue, et c'est l'horreur totale, il lèche la baignoire, parce qu'elle est très sale. Donc voilà, ça c'est un yokai qui aussi dit aux enfants il faut nettoyer, enfin même aux adultes, nettoyer régulièrement votre baignoire, ou sinon le méchant yokai. Hein. Et donc voilà, ça c'est une photo de moi aussi que j'ai pris, quand j'étais au Japon, c'est pas une photo de moi. Ah, par moi. Parce que évidemment, c'est une momie de yokai, c'est un yokai qui a été momifié. Et je l'ai vu dans une exposition, dans un musée, pas d'histoire naturelle, mais d'histoire tout court. Je vous parlerai de cette exposition après encore, mais donc absolument aucune indication que ce n'était pas authentique. Je veux dire, c'était marqué « momie de kappa » en dessous. C'était l'explication qui était donnée. C'était une exposition sur les cryptides, donc sur les monstres japonais. J'en reviendrai là-dessus après. Et c'était le clou de l'exposition. Et juste à côté, il y avait une autre momie qui était une momie de sirène. La sirène elle était grande comme ça, j'étais déçu quoi, les sirènes. La petite sirène en général était un peu plus grande, mais. Voilà quoi. C'était assez étonnant d'observer les réactions des Japonais qui voyaient ça, parce qu'en fait moi j'en avais déjà entendu parler, parce que j'adore ce genre de sujet, donc j'avais lu sur le sujet. Donc moi j'étais pas surpris, mais les Japonais qui venaient là sans s'être renseignés sur le sujet, c'est. Pour eux, c'était tout d'un coup, ils étaient en choc. Donc, toutes les histoires qu'on m'a racontées à propos des yokai quand j'étais petit, c'était vrai en fait. Donc, on a la preuve que les yokai existent. Bon, à noter que si vous prenez ça, ça faisait probablement aussi 40 cm, quoi, donc c'était pas très grand non plus. Donc ça correspond pas trop à la taille qu'on avait là. Hein. Donc, évidemment, ah oui, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ces momies sont des objets sacrés qui sont conservés dans des temples Shinto. Donc, ça, c'est une momie qui est conservée dans un temple à Osaka, si je ne m'abuse. Osaka. Et en fait, simplement, ben, encore une fois, au XVIIIe siècle, c'était un peu un artisanat local. Les pêcheurs aimaient à fabriquer des momies. Des momies soit de sirènes, soit de yokai, qu'ils vendaient comme étant des, bah, d'authentiques momies aux gens assez crédules pour les croire. Et c'était un business qui rapportait assez bien, apparemment. Quant à la méthode de fabrication de la momie, l'explication la plus standard donnée, c'est qu'en fait, c'est une tête de singe, et alors ils construisent le corps à partir de poissons. En utilisant toute une technique de fabrication, donc en combinant une tête de singe avec des parties de poisson. Cette méthode de fabrication a été contestée par d'autres spécialistes, mais comme on ne peut pas faire de tests dessus, si on pouvait faire des tests, on réalisait ça, on résoudrait vite le problème, mais on n'est pas vraiment certain de comment ils sont fabriqués. Mais enfin, à mon avis, c'est pas vrai. Alors le tanuki, en français chien vivrain. Donc en fait là c'est un yokai d'autant plus marrant que il y a une espèce qui existe réellement et puis il y a le yokai. Donc là c'est le tanuki et ça c'est l'autre tanuki. Donc il faut savoir duquel on parle. Je trouve que les tanuki sont quand même super mignons. Hein. c'est donc une espèce qui est entre le raton laveur et le chien. Et voilà, donc bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarre, mais parce que les animaux sont souvent transformés en yokai. Par exemple, il y a le kitsune, donc qui est le renard, hein, qui sont des change-formes. Donc le renard, les Japonais pensent que le renard peut non seulement se transformer, prendre des apparences humaines, mais ils pensent que un esprit de renard, de kitsune, peut aussi posséder une femme, donc un peu comme une possession démoniaque. Donc ça, c'est ça. Les renards ont aussi l'apparence physique, mais il n'y a pas d'apparence différente. Le renard, il a toujours l'air d'un renard, ou alors il prend une apparence humaine, mais alors il a une apparence humaine. Les chats aussi, les neko, ils ont aussi ça. Mais le tanuki, il a vraiment une apparence de yokai tout à fait standardisée, et bon, c'est pas tout à fait... Il faut chercher la ressemblance. Je crois que oui, donc le... Les Japonais mettent devant leur maison des statues de yokai, de tanuki pour apporter bonne fortune. Hein, donc le tanuki n'est pas du tout, c'est pas comme le kappa, en tout cas originellement, c'est pas du tout un yokai agressif, hein, c'est un yokai porte-bonheur. Et le tanuki est particulièrement célèbre pour avoir des testicules de taille impressionnante. Si vous le voyez dans certains dessins animés, il donne des coups de dents, ça fait des sons de cloche. Enfin, c'est tout à fait particulier. Dans le dessin animé fait par Ghibli, dont je parlerai après, ils utilisent les testicules pour en faire des parachutes quand ils sautent. C'est tout à fait... Voilà, ça fait partie vraiment du folklore. C'est leur caractéristique très kids-friendly. Quoi. C'est très pour les dessins animés pour enfants, ça fait tout de suite... Et donc ça, c'est le dessin animé qui a été réalisé par, encore une fois, les studios Ghibli, comme Princesse Mononoke. Donc en français, ça s'appelle juste Pompoko, mais en japonais, c'est Heisei Tanuki Gassen Pompoko, la grande guerre des Tanuki de l'ère Heisei. Et c'est encore une fois un conte écologique. Mais donc là, c'est vraiment plus sur les yokai du folklore. Hein. Donc là, enfin, ça tourne vraiment autour des Tanuki. Il y a un kitsune qui apparaît à un moment donné. Et donc c'est un conte écologique où les... Durant l'ère Heisei, donc c'est le calendrier japonais, hein, donc c'est le début du XXe siècle, et les êtres humains commencent à construire de plus en plus de maisons, de buildings, de routes, et les tanuki sont des gardiens de la nature, et donc ils essayent de faire la guerre avec les humains pour les empêcher de construire, mais les tanuki sont tellement gentils qu'ils échouent tout le temps les modes, lamentablement. Enfin, ils essayent de faire peur aux humains en changeant de forme, puisqu'ils peuvent que ça change de forme, mais ils perdent la guerre. De plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait Tokyo à la place de leur forêt. Quoi. Je sais pas où c'est situé, si ça faisait être. Mais donc on voit bien les tanuki. Dans ce film-là, On les voit sous la forme, cette forme-ci, quand ils essayent de se faire passer pour des animaux. Sinon, ils apparaissent dans le dessin animé, ça c'est le design de Miyazaki, hein, sous cette forme-ci. Mais à certains moments, ils veulent se montrer un être humain. C'est contre leurs règles, mais ils ont perdu la guerre, donc ils veulent essayer de se montrer un journaliste. Et pour pas perturber la journaliste, ils se déguisent en ça. Parce que c'est vraiment un passage amusant. Ils essayent d'adopter la forme que les humains croient qu'ils ont pour leur faire plaisir. Mais... enfin bon. Et oui. Et donc ça... l'idée que les tanuki sont des protecteurs de la nature, c'est une réinterprétation de Miyazaki. Je pense que ça ne vient pas de, vraiment du folklore antérieur, mais maintenant c'est vraiment rentré dans, dans l'imaginaire collectif japonais que les tanuki protègent la nature, à tel point que quand il y a eu la, le tsunami, et puis donc la, la catastrophe nucléaire, dans les jours qui suivent la catastrophe, il y a eu une caméra de la centrale nucléaire qui, a film, qui filmait donc les environs automatiquement de la centrale. Et ils ont filmé un tanuki, mais évidemment qui était cette pauvre bête qui venait dans la zone contaminée, enfin vraiment très près de la centrale nucléaire. Mais évidemment, quand ils ont vu ça, ça a fait les nouvelles nationales, parce que quand ils ont vu ça, ils ont pensé ça. Et donc ils ont pensé que c'était un signe que, c'était un signe que des kami, donc des... de la nature, la nature envoyait le tanuki pour leur dire ben, tout ira bien avec la centrale nucléaire, quoi. La nature reprendra ses droits. Enfin. Non, mais je... encore une fois, dans quelle mesure est-ce que les Japonais y croient littéralement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça a passé dans les nouvelles nationales comme une nouvelle digne de ce nom. La caméra de Fukushima avait filmé un tanuki. Hein. C'est ça qui est étonnant finalement. Et puis il y a les braves Oni. Bah, les Oni, c'est plutôt des ogres en fait. Hein. C'est simplement des ogres. Ils ont des massues avec un bout en fer. Et donc ils interviennent souvent dans les histoires comme, comme justement, comme nous on aurait des ogres dans nos histoires. La seule différence c'est qu'il y a le festival de Setsubun qui est le 3 février. Donc c'est un festival japonais, une fête japonaise. Et pour Setsubun, la façon dont ça se présente, c'est que les parents, le père de famille doit se déguiser en Oni, donc ils ont des masques, hein. Ils mettent un masque de Oni, et puis ils se mettent à courir derrière les enfants de la maisonnée, et les enfants vont donc lancer des haricots sur l'Oni, enfin sur le papa en fait, qui s'en prend plein la figure. Ils lancent les haricots, et à cause de ça, quand on leur lance des haricots, l'Oni s'enfuit, et donc ils ont toute une formule qui disent... qui veut dire quand on chasse le Oni et ça fait rentrer le bonheur dans la maison. Voilà, donc ça c'est les Oni, c'est vraiment des ogres qui apparaissent dans les contes et légendes. Le conte de Momotaro, hein, qui est très célèbre. Momotaro, c'est l'histoire d'un petit garçon, enfin non, c'est l'histoire de deux personnes âgées qui habitent dans la forêt loin de tout, et elles vont près de la rivière, et elles trouvent une pêche de taille... de grande taille, ramènent la pêche à la maison. Une pêche, ça se dit Momo en japonais. Et ils ouvrent la pêche et il y a un bébé à l'intérieur. Et le bébé s'appelle donc Momotaro, hein, l'enfant pêche, si on veut. Et il l'élève. Et puis, quand il est adolescent, il y a des Oni qui font ce que les Oni font. C'est-à-dire qu'ils cassent tout dans les environs. Et Momotaro décide d'aller les chasser, évidemment. Et pour ça, sa maman, donc la très vieille dame, lui donne des dango, donc c'est des sucreries japonaises avec en forme, enfin trois boules comme ça. C'est une sucrerie japonaise. Elle lui donne des dango magiques. Il part à la recherche des Oni, puis rencontre un chien. Il donne un de ces dango, kimidango, c'est le nom spécial de ces biscuits, qui est magique et ça permet au chien de parler. Il a une conversation avec le chien. Le chien décide de l'accompagner. Puis après, il fait la même chose avec un singe. Et puis enfin un aigle, et puis quand il a sa petite armée, le singe, l'aigle et le... qu'est-ce que je dis ? Le chien. Ils vont affronter les Oni. Les Oni s'enfuient, parce qu'on est dans une version bonne pour les enfants. Et puis ils rentrent à la maison, voilà, en héros. Ça c'est l'histoire Momotaro. Momotaro pour les Japonais, c'est vraiment... c'est le petit chaperon rouge. Hein. Enfin, donc moi je suis marié à une Japonaise, et j'ai un fils de 2 ans, on n'arrête pas de lui lire. Hein. C'est 2 ans et demi, il adore Momotaro. C'est son histoire de... préféré pour le moment, et des livres qui racontent l'histoire sont vraiment très courants. Bon, les Tengu, je les ai mis parce qu'ils sont marrants, mais ils ont un très très long nez. Et bah, simplement, on peut dire que c'est des divinités inférieures de la religion Shinto, donc c'est des êtres surnaturels. Bon, moi, j'hésite toujours à utiliser des vocables comme démon, ange, parce que ça donne une connotation chrétienne. Non, c'est des êtres surnaturels, mais leur caractéristique, c'est qu'ils ont des très longs nez. Et ça, c'est un masque, évidemment, si on veut se déguiser en Tengu. Et alors, oui, j'ai montré tous les yokai. Ouais, j'ai fait tous les yokai anthropomorphes. Enfin, pas tous les yokai, mais j'ai fait les yokai les plus célèbres anthropomorphes. Mais en fait, il y en a plein qui ne sont pas du tout anthropomorphes. Et donc ici, c'est le Kasa Obake, c'est donc le monstre parapluie, qui est un yokai extrêmement célèbre. C'est un parapluie qui devient vivant. En fait, c'est un parapluie que quelqu'un imaginait qu'un d'entre vous ait perdu son parapluie, et le parapluie décide de revenir se venger. Parce que... Encore une fois, c'est l'idée de l'animisme. Hein, non seulement les animaux, comme les insectes, ont une âme, mais même le parapluie a une âme. Donc... il va revenir, et alors... Bon, ici, j'ai mis une illustration un peu... pas trop effrayante, mais il y a des illustrations plus... Si vous cherchez un peu, vous trouvez des illustrations un peu plus effrayantes du parapluie avec une énorme bouche qui veut manger son propriétaire. Et ce qui est bizarre, c'est que... Bon, enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais... Il a un seul pied, puis la fameuse guitare, la sandale japonaise. Voilà. Et donc, il y a toute une série de yokai qui sont en fait des objets qui sont transformés en yokai parce qu'on les a abandonnés, on s'est pas occupé d'eux... Des instruments de musique, par exemple, comme le koto, etc., vont se transformer. Si on ne joue pas assez souvent, ils vont se transformer en monstres et vous attaquer. Voilà. Et ben, c'est le yokai le plus récent, que j'avais un peu annoncé au départ, tout à l'heure. Hein. C'est un yokai qui est apparu dans les années 20, je veux dire au 20e siècle, hein, dans les années 70, 80. Qu'est-ce qu'il fait? Kuchi Sakeonna, donc c'est une femme qui se promène, et alors elle porte toujours un masque. Vous savez, les masques hygiéniques que les Japonais portent hein, pour se protéger de la pollution ou des bactéries. Bon, ça marche pas, mais ils en portent. Et alors, elle porte ça, et donc si vous imaginez qu'elle est comme ça, bon, ici ils l'ont fait avec les... Ça vient d'un film qui a été sur le sujet, parce que c'est l'affiche. Normalement, si elle a ça, bon, on ne peut pas voir qu'elle est défigurée, mais donc elle marche en rue, et alors elle va s'approcher des enfants qui rentrent de l'école. Il faut savoir qu'au Japon, les écoles ont vraiment une route bien définie que les enfants doivent prendre pour rentrer à la maison, donc ils ne sont pas difficiles à trouver. Hein. Et elle s'avance vers l'enfant, et elle va lui demander, donc, est-ce que je suis jolie? Et puis si l'enfant répond oui, elle enlève son masque, et puis elle dit, est-ce que je suis toujours jolie maintenant? Et s'il répond... Enfin, quoi qu'il fasse, de toute façon, il est mort. Non, mais dans la littérature sur les yokai, il y avait des grandes conversations sur la technique à éviter. Donc, eux, ce qu'ils conseillaient, c'était de dire « Mahama », donc peut-être, je ne m'engage pas. Donc, si vous êtes vague dans votre réponse, il y a peut-être une chance qu'elle soit tellement perturbée qu'elle ne vous poignarde pas juste après. Mais il n'y a pas de consensus sur la question. Par contre, encore une fois, dans les années 70, il y a eu une épidémie donc d'observation, enfin donc des enfants rapportaient s'être fait attaquer par des Kuchisakeonna, hein. Et donc ils ont été se plaindre chez les policiers, et donc on a même eu des écoles qui ont fermé pendant un certain nombre de jours par peur de l'attaque de cette brave dame. Et aussi, parfois, ils ont demandé aux instituteurs de retourner avec les enfants sur cette fameuse route pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attaque. Donc voilà, comme quoi, on peut... Enfin, ces yokai sont vraiment observés, hein, pour voir. Oui, en préparant cette conférence, j'ai même été voir sur YouTube, si vous regardez les mauvaises choses sur YouTube, enfin, les trucs par des gens pas très sérieux, ils vont vous dire « Ouais, mais... » En fait, c'était une vraie dame, on a retrouvé son corps, mais je ne suis pas très convaincu. En tout cas, ils auraient intérêt à bien sourcer leur information. Ceux qui étaient là, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus sur la conférence sur les légendes urbaines. Elle avait parlé de cette légende urbaine, hein, de la bouche ouverte, même à Bruxelles, je crois qu'elle avait mentionné.
Le sourire de l'ange.
Le sourire de l'ange. Donc en fait, c'est un thème classique des légendes urbaines. Même à Bruxelles, on a eu de la légende urbaine qui était née. Quoi. Voilà. Et comme je l'avais dit, on va terminer par la cryptozoologie. Et donc la cryptozoologie, ça c'est l'affiche de la conférence dont je vous ai déjà montré la momie du Kalpa. C'est donc dans la ville où j'habite, hein, super, alors j'étais content, il y avait une conférence sur la cryptozoologie juste chez moi. Par contre, dans le musée, c'était pas le musée d'histoire naturelle, c'était le musée d'histoire locale, super sérieux le musée, mais il n'y avait absolument aucune information critique sur les cryptides. Pour donner une idée, quand on va au Loch Ness, hein, si vous allez dans le musée du monstre du Loch Ness, il y a plein d'informations critiques sur le monstre du Loch Ness, hein, ça va. Si vous visitez le musée, il y a... Je ne dis pas qu'ils vous disent presque clairement que le monstre du Loch Ness n'existe pas, mais presque. Quoi. Si vous lisez correctement ce qui a marqué, vous devriez sortir avec l'impression que c'est clair qu'il n'y a pas de monstre du Loch Ness. Mais là, non, pas du tout. Tout est vrai. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils appellent ça Yuma. Enfin, Yuma. Ce qui était un bel exemple de ce qu'on appelle du Japlish. Hein, donc, c'est de l'anglais. Ah, tellement altéré par les japonais que ça ne correspond à rien. Donc, en fait, ça vient de Unidentified Monstrous Animal. Donc en fait, c'est un mot qu'ils ont construit sur UFO, Unidentified Flying Objects, OVNI. Hein. Et ils ont transformé ça, ils ont mis des monstres, des animaux monstrueux. Donc c'est, au lieu d'être un objet volant non identifié, c'est comme s'ils mettaient animal monstrueux non identifié. Mais évidemment, c'est jamais utilisé en anglais. En anglais, on dit cryptid. Donc c'est un mot qui n'existe qu'en japonais. Et c'est comme ça qu'ils appellent la cryptozoologie, quoi. D'ailleurs, par exemple, j'ai un autre livre là, ça c'est un livre de cryptozoologie, qu'on trouve dans toutes les librairies, hein. C'est rien de spécial, je l'ai trouvé là-bas. Ça vous dira que le Bigfoot existe, que le monstre du Loch Ness existe, etc. Avec des photos qui ont été démystifiées il y a 30 ans, mais ils les présentent comme vrai. Voilà, et donc... Dans cette photo-là, il y a marqué Bigfoot, donc ça c'est le Bigfoot. Mais qui pourra deviner quel est l'animal là? Ça c'est le Chupacabra, une créature du cryptide du Nouveau-Mexique.
Un Chupacabra.
Quoi?
La suceuse de chèvre.
La suceuse de chèvre, ouais. El Chupacabra. Bon, ben ça, bon, parce qu'évidemment dans l'exposition, il parlait des cryptides du monde entier, hein, donc c'est ce que je disais, hein, il vous présentait où habite le Bigfoot, où habite le Chupacabra, etc. Tout à fait sérieusement. Hein. D'ailleurs, ils nous apprennent, c'est formidable, que le Chupacabra fait 90 cm. Et qu'il est... Mais le Bigfoot, par contre, il fait entre 2,3 et 2,6 m, là, c'est franchement imprécis. Là, un peu plus de précision, c'est sûr. Mais... Voilà, donc ça c'est un cryptide qui était présenté dans l'exposition elle-même et qui est un cryptide classique de chez classique pour les japonais qui s'appelle donc le Tsuchinoko. Et donc c'est supposé être un serpent qui aurait une tête et une queue beaucoup moins épaisse que le reste du corps. Ça c'est... Quoi ?
C'est impossible.
Libre de tes jugements, mais voilà, donc la présentation qu'il y avait, ça c'est ce qu'il y avait dans le musée carrément, il y avait c'était pas présenté comme un vrai, mais je veux dire, c'était une reconstitution de Tsuchinoko pour notre édification. Et donc, oui, on peut voir des émissions sur les chaînes japonaises où il y a par exemple des jeunes idoles de 16 ans qui vont patauger dans la forêt à la recherche du Tsuchinoko. C'est à hurler de rire. C'est vraiment pire que les émissions de chasseurs de fantômes qu'on a maintenant. Mais là, parce que là, c'est vraiment des jeunes filles de 16 ans célèbres pour être des chanteuses. On met deux garçons avec. Et alors, elles poussent des petits cris dès qu'elles entendent un bruit dans la forêt. Enfin, ils essayent même pas de faire semblant. Je dis. Mais ça se vend dans toutes les bonnes librairies. Donc, ouais. Voilà. Mais bon. Le Tsuchinoko, donc évidemment dans les cryptides, les cryptozoologues japonais vont parfois défendre que le kappa existe par exemple. Hein. Et donc par exemple sur le kappa, ce qu'ils vont nous dire, si vous regardez ça, ils vont dire, mais oui, mais c'est clairement un petit gris en fait extraterrestre. C'est juste une variante de petit gris quoi. Et les gens ont cru que c'était des kappas, mais en fait c'est des extraterrestres qui descendent des soucoupes volantes et qui vont dans les rivières. Parce que sur leur planète, dans le dernier livre que j'ai lu sur le sujet, ils disaient que c'était rétina zéticulée apparemment, et c'est très précis aussi. Bon, il y a beaucoup d'eau, donc c'est pour ça que maintenant ils vont dans les égouts apparemment. Mais, donc voilà, ils disent que c'est une variante de gris, C'est des petits gris, hein, vous connaissez, hein, c'est des extraterrestres en... avec les gros yeux noirs qu'on a dans les récits d'enlèvement par les extraterrestres. Alors, évidemment, ils nous disent c'est une variante de petits gris, mais ils sont verts. Bon, c'est des petits verts. Mais voilà, ça c'est ce que vous pourrez lire dans les livres d'ufologie japonaise. Dans les, bon, quand même dans les mauvais livres d'ufologie japonais, mais japonais, mais dans la frange lunatique. Mais donc, je veux dire, si vous lisez un cryptozoologue sérieux, entre guillemets, il va quand même vous dire non, le kappa, ça n'existe pas. C'est que des légendes. Mais donc, par contre, le Tsuchinoko, ils vont dire ouais, c'est quand même possible que ça existe. Bon. Évidemment, ça fait des années que les cryptozoologues, enfin, quand je dis des années, des décennies, que les cryptozoologues cherchent un exemplaire de Tsuchinoko, ils n'en ont jamais trouvé. Donc, je suis sceptique, mais enfin. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas comme un Bigfoot ou le monstre du Loch Ness, quoi. C'est un serpent qui aurait des caractéristiques particulières. On pourrait imaginer que ça existe, même si l'absence de preuves jusqu'à présent, mais malgré qu'on ait lancé de nombreuses idoles dans la forêt à leur recherche. Non, une explication plus prosaïque pour les observations, c'est qu'évidemment, quelqu'un peut facilement faire une observation de Tsuchinoko en ayant un lézard qui passe devant lui. Ou encore un serpent qui vient juste de manger, et alors évidemment ça commence son abdomen. Et donc la personne témoigne avoir vu un Tsuchinoko. Voilà. Et voilà. On a ce bon vieux Godzilla pour terminer. Je pense, juste pour dire que finalement tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent devrait vous expliquer ça. vous voyez que la culture japonaise est vraiment ancrée dans une culture des monstres, des animaux fantastiques et des animaux mystérieux assez incroyable. Et il ne faut pas s'étonner que dans les médias, dans les films, etc., elles reviennent sans arrêt, y compris sous la forme des kaiju, hein, donc ces grands monstres qui ravagent les cités. Voilà, j'ai terminé. Désolé.